va pour l'instant. Merci beaucoup Gérard, c'est gentil de toi.
La grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre frère et notre sauveur. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous sommes assemblés aujourd'hui pour partager ce temps de culte. Et nous voulons te dire que tu es à la fois notre espérance et notre inquiétude. Notre inquiétude parce que nous te cherchons et que trop souvent, lorsque nous appelons, c'est le silence qui nous répond. Notre espérance, parce que malgré le silence, nous croyons que tu es là, à nos côtés, discret et fidèle. Nous devinons ta présence dans notre désir d'aimer et de partager. Alors, Dieu notre Père, toi qui franchis les murs, qu'ils soient de haine ou de béton, de doute ou d'incompréhension. Toi qui es présence qu'on ne peut enfermer dans aucun tombeau, merci d'être avec nous comme l'ami délicat, comme l'absent espéré. Renouvelle en nous la joie de te rencontrer et de te suivre. Amen. Je vous invite à ouvrir ce culte par le premier chant que vous trouverez dans le livret inséré au début du psautier et qui s'intitule « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Et je vous invite à vous lever. Restons debout pour louer Dieu. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, Seigneur, et l'assemblée des croyants, ta fidélité. Dieu de l'univers, quelle est ta puissance? C'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer tout le jour. À ton nom, il dansera de joie. Et je vous invite à poursuivre notre louange par le chant des trois strophes du psaume 138 que vous trouverez dans le recueil Le Psautier français, psaume 138. des places. Écoutons ce que Dieu veut pour nous avec les paroles du prophète Ésaïe. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'entre le ciel et la terre. De même que la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre et sans l'avoir rendue fertile, il en est de même pour ma parole, ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit de l'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Ensemble. Dieu notre Père, tel que nous sommes, nous nous tournons vers toi. Viens à notre aide. Nous déposons devant toi tout ce qui nous sépare de toi, des autres, mais aussi de nous-mêmes. Aide-nous à prendre conscience des liens qui nous unissent. Ne nous laisse pas fuir en nous-mêmes et nous fermer à l'autre. Fais-nous sans cesse discerner ta volonté là où nous sommes, pour la situation que nous vivons. Renouvelle en nous ton amour, cet amour exigeant qui retient le pied qui chancelle, qui affermit la voix sans force, qui fortifie le faible qui trébuche. Oui, Dieu notre Père, pardonne-nous de ne compter que sur nous-mêmes, alors que tu nous invites inlassablement à ne compter que sur toi. Amen. Je vous invite à vous lever pour accueillir le pardon que Dieu nous donne. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient. Ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. Amen. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Restons debout pour confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle, la victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Prenez place. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, nous lirons les versets 14 à 30. Alors Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et tous disaient sa gloire. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra, suivant sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Tous lui rendaient témoignage. Ils s'étonnaient du message de la grâce qui sortait de sa bouche et il disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Alors il leur dit « Sûrement, vous allez me citer ce dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais-en donc autant ici, dans ta patrie. » Et il ajouta, « Oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et que survint une grande famine sur tout le pays. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'entre eux ne fut purifié, mais bien Naaman le Syrien. Tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Ta parole est la vérité, Seigneur. Guide-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite maintenant à prendre dans le recueil Louanges et prières le cantique numéro 265 qui s'intitule « Ne laisse pas ma foi défaillir loin de toi ». Et de ce cantique, nous chanterons toutes les strophes.
Ne laisse pas ma foi.
Amis, frères et sœurs, parmi les lectures proposées pour aujourd'hui, il y en a une sur laquelle on ne s'attarde pas autant qu'on pourrait l'imaginer. C'est ce récit appelé « Récit de l'échec de la prédication de Jésus à Nazareth ». C'est un passage qui interroge. Ne pourrait-on pas dire, un peu rapidement, j'en conviens, que Jésus aurait en quelque sorte raté son oral ? Alors si c'est le cas, alors cela ne peut être que rassurant, voire libérateur, pour toutes les personnes qui se succèdent non seulement à cette chair, mais partout ailleurs, toutes confessions confondues depuis la fondation de l'Église, sans pour autant les dispenser de faire de leur mieux avec ce qu'elles sont. Ce passage que nous avons lu, entendu et raconté dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, trois fois avec des accentuations différentes, même si les récits de Matthieu et de Marc sont assez semblables dans leur brièveté et sur leur insistance à signaler que ce qui fait barrage à l'adhésion de foi des gens de Nazareth au message et à la personne de Jésus, c'est son origine familiale constituant au fond comme un mur, sinon de séparation, en tout cas d'incompréhension. Mais dans l'évangile de Luc, qui nous intéresse ce matin, ce n'est pas la même chose. Le récit raconté est plus long que dans les deux autres évangiles. Il comporte des détails concernant la lecture de Jésus à la synagogue, seulement suggérés dans les autres évangiles. Alors reprenons le texte de Luc dans les grandes lignes pour repérer ensemble dans un premier temps la trame, dans un second temps le point de rupture et ses conséquences. Et enfin, nous nous poserons la question, et si cet échec de la prédication de Jésus ce jour-là ne fut pas plutôt une source de fécondité ? Nous sommes au début de l'évangile de Luc, le scénario du commencement du ministère de Jésus est en place. Après les chapitres consacrés à l'enfance et à sa jeunesse, on retrouve Jésus sur les rives du Jourdain en train de recevoir son baptême où l'Esprit Saint le remplit entièrement. Et puis le voilà sortant victorieux de la tentation au désert, toujours rempli de l'Esprit Saint. Et c'est toujours habité par cette même puissance de l'Esprit qu'il revient en Galilée. Il enseigne dans les synagogues, sa renommée se répand dans toute la région. C'est donc précédé d'une bonne réputation que, selon sa coutume, Jésus entre dans la synagogue pour l'office du jour du sabbat. Et toutes les actions de Jésus sont ici minutieusement décrites. Il se lève pour faire la lecture. On lui donne le livre du prophète Ésaïe, il le déroule, il trouve le passage qu'il va commenter. Mais au fond, ce n'est pas surprenant, puisque tout juif, adulte, rabbin ou non, peut lire et commenter librement l'Écriture. Alors, est-ce que c'est la lecture du jour ? On n'en sait rien. Est-ce une coïncidence intentionnelle du rédacteur de l'Évangile ? Peut-être. Toujours est-il que Jésus ne choisit pas le passage, mais qu'il le trouve. Et il lit ce passage proposé, à savoir le début du chapitre 61 d'Ésaïe, qui évoque la consécration d'un prophète ayant reçu l'Esprit du Seigneur par l'onction justifiant sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Notons tout de même un détail, il manque juste la finale de ce verset 61, menaçante pour tout dire, il manque un jour de vengeance pour notre Dieu. Continuons. L'assemblée regarde Jésus intensément en attendant son commentaire. Elle attend sûrement une parole qui va nourrir son espérance. De quoi recharger ses batteries pour tenir toujours dans la fidélité, en tout cas toute la semaine jusqu'au prochain office. Et c'est comme ça depuis des générations. Mais Jésus ici va faire autre chose que commenter le passage de l'Écriture. Il en fait une actualisation que personne ne pourra oublier. Il annonce l'accomplissement de cette prophétie ici et maintenant, aujourd'hui. Cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Ce que Jésus est en train de dire est d'une densité absolue. On imagine le silence dans la pièce. Les auditeurs ont-ils bien entendu ? Comment cela pourrait-il se faire après des siècles d'attente et de partage de l'écriture patiemment transmise de génération en génération ? Chacun en Israël espère la réalisation de la prophétie d'Ésaïe sans oser croire une seconde qu'elle se fera de son vivant. Alors les propos de Jésus sont d'une audace inattendue et le programme auquel il fait allusion est chargé. Il proclame une année d'accueil par le Seigneur, une année jubilatoire, certes prévue et fixée par la loi de Moïse tous les 50 ans, mais cette fois-ci, c'est pour de vrai. L'Assemblée est déjà témoin de la réalisation qui va s'opérer et qui est en train de s'accomplir sous la forme d'une libération annoncée pour ceux qui sont captifs ou opprimés, au sens propre comme au sens figuré. Et aussi l'annonce de guérison, en particulier celle des aveugles, là aussi au sens propre comme au sens figuré. Les aveugles des yeux comme les aveugles du cœur. Alors on imagine le flottement dans l'assemblée. Dans un premier temps, elle accueille favorablement les propos de Jésus. Chacun est sensible à la qualité de la parole exprimée, mais chacun est en même temps étonné, perplexe, dérangé par rapport à celui qui la prononce. Au fond, peut-être qu'ils ne sont pas aussi près que cela à la réalisation de l'espérance. Au fond, c'était beaucoup plus confortable d'attendre. Mais de là, vivre la réalisation de cette espérance, c'est une autre histoire. Chacun a son propre scénario en tête pour l'accomplissement de cette prophétie. Mais sûrement pas celui de l'appropriation de celle-ci par l'un d'entre eux et encore moins par Jésus de Nazareth. N'est-ce pas là le fils de Joseph ? Et c'est exactement là où notre récit bascule. Et ce basculement, voire ce renversement, va conduire à un point de rupture. Contre toute attente, Jésus enchaîne avec un autre discours, à la fois surprenant par son ironie et violent dans ses propos. Il prend à partie son auditoire, il ne lui laisse pas le temps de se poser la question jusqu'au bout qui pourrait être celle-ci. Le fils du charpentier de Nazareth ne pourrait-il pas être un prophète qualifié ? On attend bien sûr un Messie, un Christ, un vrai. Mais se pourrait-il qu'il soit déjà parmi nous à Nazareth ? Les auditeurs sont en train de douter sans l'exprimer vraiment. Et voilà que Jésus va en quelque sorte les devancer en portant sur eux un verdict sévère de non-accueil. Et on dirait que Jésus est en train d'attaquer son auditoire. Et tout se mélange dans les propos de Jésus. Il fait allusion à ce qui s'est passé à Capharnaüm, alors qu'en fait, tout cela n'a pas encore eu lieu. En effet, Jésus ira à Capharnaüm après avoir quitté Nazareth. Alors, est-ce que c'est une erreur d'écriture de l'évangéliste Luc, où ses propres souvenirs se mélangent ? Peut-être, mais ce qui compte, c'est qu'après avoir annoncé une année d'accueil par la lecture de la prophétie, voilà que Jésus exprime un verdict opposé. Et pour illustrer ce non-accueil, il insiste d'une part avec ce dicton « Aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie », qui rappelle « Celui qu'on connaît mieux, nul n'est prophète en son pays ». Et d'autre part, il enchaîne avec une provocation sans précédent, en rappelant qu'au temps des prophètes Élie et Élisée, alors que le peuple d'Israël était en attente de la manifestation de la présence de Dieu pour lui-même, ce sont deux étrangers, étrangers à Israël, une femme, la veuve de Sarepta, et un homme, Naaman le Syrien, qui ont été au bénéfice de la présence de Dieu par la faim comblée d'une part et la guérison de l'impur d'autre part. Et ce sont ces propos-là qui provoquent la colère de toute l'assemblée de la synagogue. En une seconde, voilà que chacun sort de sa zone de confort. L'auditoire, parce qu'il est frustré par les paroles de Jésus qui ne leur a pas dit ce qu'ils espéraient peut-être entendre, à savoir qu'ils pourraient être les bénéficiaires privilégiés de l'accomplissement de la prophétie. Mais également Jésus, parce qu'il s'est mis au banc des exclus en parlant de la veuve de Sarepta et de Naaman le Syrien, refusant d'une certaine manière le rôle qu'on voudrait lui faire endosser, à savoir être le prophète guérisseur privilégié d'une certaine catégorie de personnes. Alors, la situation dégénère, ils se lèvent, ils jettent Jésus hors de la ville, le conduisent à un escarpement pour le précipiter en bas, dont on peut se demander si Luc nous parle de Nazareth ou bien de Jérusalem. Mais Jésus ne se laisse pas impressionner par cette assemblée devenue menaçante, avec un aplomb extraordinaire qui en dit long sur sa force intérieure, sa conviction intime, et qui témoigne au fond de son autorité. Il passe au milieu d'eux et il a là son chemin. Son ministère ne fait que commencer. Alors, amis, frères et sœurs, peut-on qualifier cette histoire que nous entendons d'échec de la prédication de Jésus ? Tout dépend de l'idée que nous nous faisons de Dieu. Tout dépend de l'idée que nous nous faisons du Messie, du Christ. Si nous avons en tête l'idée d'un Dieu, disons, tout-puissant, omnipotent, alors il semble que la prédication de Jésus, fils de Dieu, devrait être attirante. séduisante. Il devrait pouvoir emmener tout le monde derrière lui comme un seul. Sa prédication serait alors, me semble-t-il, indiscutable, d'une certaine façon. Bien sûr, ce serait une vérité, mais une vérité dogmatique, imposée, incontestable, voire indubitable. Et là, je ne donne pas cher de la liberté de l'être humain par cette prédication. Mais les évangiles ne nous parlent pas de ce Dieu-là. Ils nous parlent d'un Dieu qui, en Jésus-Christ, justement, se propose à tous, à toutes, à ceux du pays d'Israël comme aux païens, aux orthodoxes comme aux libéraux, à ceux qui savent comme à ceux qui croient, à ceux qui ont des certitudes comme à ceux qui ont des doutes, à celui qui croit au ciel comme à celui qui n'y croit pas. Il n'aura de cesse de s'approcher des plus petits, des exclus, des malades, des lépreux, des femmes hémorragiques ou adultères, sans oublier les enfants, maillons insignifiants de la société, tous ces derniers dans le regard des hommes, appelés à devenir les premiers, réhabilités par le regard du Christ et par ce regard, invités à reprendre, sinon leur place dans la société, en tout cas leur vie en main. Et c'est déjà ce renversement qui est annoncé par la bouche de Jésus ce jour-là à la synagogue de Nazareth, et il y a de quoi être secoué. Amis, frères et sœurs, dans le récit de Luc, les allusions au récit de la Passion sont discrètes mais présentes. À travers le rejet de Jésus à Nazareth est préfiguré en quelque sorte le rejet de Jésus à Jérusalem. Par sa mort, Jésus ne sera pas le Messie espéré, y compris pour les disciples qui le suivront. Il faudra encore attendre le matin de Pâques et aussi l'auberge d'Emmaüs racontée dans ce même évangile pour reconnaître par le cœur ce qui est devenu invisible aux yeux. Alors ce récit vient nous bousculer, nous aussi. Il vient nous sortir aujourd'hui de toutes nos zones de confort, réunis que nous sommes, calfeutrés, réconfortés par les images fabriquées à l'image de l'assemblée de la synagogue, réunie pour ce jour de sabbat. Mais à travers cet inconfort, qui n'est que temporaire, se découvre tout un terrain de fécondité à venir. À travers sa provocation, Jésus vient semer quelque chose de nouveau, non seulement en chacun des auditeurs de Nazareth, même si la première réaction est celle de la colère, qui symbolise au fond la déstabilisation qu'elle a entraînée, mais il vient semer quelque chose d'entièrement neuf, également en nous. La parole de Jésus a touché quelque chose de juste, de sensible, de précis en chacun des auditeurs de Nazareth, mais ils ne le savent pas encore. De la même façon qu'elle peut toucher quelque chose en nous. Et si Jésus est la parole de Dieu incarnée, comme nous le croyons, alors l'année d'accueil inaugurée au début de son ministère n'est toujours pas refermée. Elle continue d'être d'actualité, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. La veuve et le lépreux sont les nouvelles figures d'exclusion et de pauvreté, même si aujourd'hui elles portent d'autres noms. Elles restent néanmoins les bénéficiaires de la pratique d'accueil de Jésus lui-même, manifestée aujourd'hui par notre engagement et notre solidarité. Parce que le Dieu de Jésus-Christ s'en est remis à notre propre annonce de l'Évangile. Nous avons à donner ce que nous avons reçu. C'est nous qui actualisons le message de l'Évangile, du moins si ce message nous rejoint. Si notre foi est une bonne nouvelle pour nous et pour les autres, nous prenons le risque qu'elle ne soit pas accueillie unanimement et partout. Croire est un risque pour nous-mêmes, un risque pour les autres. Et dans cette quête, nous pouvons avoir raison, avoir tort, nous tromper. Mais nous pouvons aussi compter sur la présence dynamique de Dieu pour qu'il nous guide malgré nos erreurs d'interprétation. Et nous pouvons espérer pour nous-mêmes que son amour nous replace toujours devant l'essentiel. Vivre de la foi, c'est croire que rien, malgré les apparences, ne va vers la destruction, mais vers le renouvellement. Parce que de tous nos échecs, de tous nos ratages, de toutes nos cibles manquées, n'est-ce pas l'étymologie du mot péché ? Eh bien, nous apprenons toujours quelque chose de neuf sur la vie, sur les autres et sur nous-mêmes. Ce qui est extraordinaire, c'est que plus on vieillit, et même si notre corps est appelé à nous lâcher tôt ou tard, plus nous sommes renouvelés. Frères et sœurs, amis, c'est à cette fécondité que nous sommes appelés. C'est même l'année d'accueil du Seigneur pour toute notre vie et cela commence aujourd'hui. Amen. dans le recueil Louanges et prières. Je vous invite à prendre le cantique numéro 300, dont nous chanterons les trois strophes. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique.
Merci. Bonjour à vous tous. Avant d'évoquer les activités de la paroisse pour la semaine à venir, remercions tout d'abord le pasteur Agnès Adeline Schaeffer pour son culte et pour sa prédication, dans lequel elle a évoqué de nombreux thèmes. J'en ai retenu personnellement trois particulièrement. Le premier, c'est la difficulté que nous avons trop souvent à déceler l'importance singulière d'une personne que nous connaissons depuis toujours, que nous avons vu grandir. La deuxième, c'est la différence qui existe entre l'espérance et la foi. Et enfin, la troisième, pour moi, c'est la liberté qui a été attribuée à l'être humain. Les activités. De lundi, grec biblique pour progressant de 19h30 à 21h par Aurore Mériot, salle Roberti. Mardi, société en débat de 20h à 21h30, la psychiatrie en prison par le docteur Guillaume Monod, psychiatre, pratiquant hospitalier. Soirée organisée et animée par les pasteurs Claire Omazir et Jean-Pierre Rive, autour du thème de l'année de cycle de conférences « Aspects mythiques de la santé et de la maladie », entrée libre, salle mono. Je pense à l'instant que j'ai oublié quelque chose tout à fait regrettable, c'est de remercier aussi notre organiste titulaire, David Cassan, qui nous régale toujours dans l'accompagnement des cultes et dans les musiques qu'il nous joue, qu'ils en soient vivement remerciés. Jeudi 31, c'est la répétition du Chœur de l'Oratoire de 19h30 à 22h avec Fabien Aubé et Alexandre Korovitch, Salmono. Je vous rappelle aussi que le chœur recrute en permanence et particulièrement là pour son concert du 7 juin. Donc il reste encore un peu de temps pour s'entraîner. Ce sera la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, qui aura lieu bien sûr à l'Oratoire. Samedi 2 février, hébreu biblique, découverte, de 10h à 11h avec le pasteur Gilles Castelnau. Ça se tiendra Salverne. Enfin, je vous rappelle que à 16h, ce même samedi 2 février, il y aura un récital d'orgue par Lucie Berthemier, harpiste, et David Cassan, notre organiste, à l'Oratoire, ici donc, concert autour de Handel, Debussy, Ravel, et il y aura aussi de l'improvisation. Ce sera retransmis sur grand écran pour pouvoir apprécier le jeu de l'organiste. Je vous informe enfin que dimanche prochain, bien sûr il y aura le culte comme toujours à 10h30 et ce sera Béatrice Clermazia, notre pasteur, qui l'assurera, mais il se trouve, et Sarah King qui sera à l'orgue, il y aura le repas paroissial, mais il se trouve que ce dimanche-là, il y aura un petit problème parce que c'est une journée sans voiture pour les 1er et 4e arrondissements. Donc, avis à ceux qui viennent en voiture, le mieux, c'est d'utiliser les transports en commun. Voilà, et maintenant, bien sûr, c'est l'heure de la collecte.
Prions ensemble. Dieu notre Père, accepte l'offrande que nous venons de recueillir et qu'elle serve à l'annonce de l'Évangile, mais aussi à la solidarité envers tous ceux qui en ont besoin. Amen. Louons Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour la multitude ». Pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te prions pour celles et ceux qui prient aujourd'hui. Pour nos frères et nos sœurs en la foi, connus ou inconnus. Pour celles et ceux qui te prient dans la joie, comme celles et ceux qui s'adressent à toi dans la souffrance et l'angoisse. Notre prière rejoint la leur et monte vers toi dans un élan de confiance et de reconnaissance. Dieu notre Père, nous te prions pour celles et ceux qui ne te prient plus, et qui pourtant te connaissent et ont autrefois prié. Pour celles et ceux qu'une souffrance a révoltés ou que le bonheur matériel a isolés. Dieu notre Père, Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile ou qui vivent dans l'insouciance. Et aussi pour celles et ceux qui souffrent silencieusement dans leur nuit intérieure. Nous te présentons les personnes malades, hospitalisées, incarcérées. Nous te prions aussi pour le personnel soignant et pour celui qui travaille en détention. Oui, pour eux tous, notre prière monte vers toi. Dieu notre Père, toi qui nous rassembles et nous invites à nous réjouir de la venue de ton Fils, envoie ici et maintenant ton Saint-Esprit pour que nous recevions réellement en ce pain et en ce vin sa présence parmi nous. Comme les épis jadis épars dans les campagnes, et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi toute l'humanité soit rassemblée en ton amour et réunie un jour dans ton royaume. Unie au Christ, en communion avec ceux qui sont auprès comme au loin, et comme Jésus nous l'a enseigné, nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Venez, car tout est prêt. Il y aura plusieurs tables ce matin, donc ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas faire tous cercle en même temps. Nous sommes tous dans la communion fraternelle.
C'est pas fait. Non, mais ça va.
Amis, frères et sœurs, le pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez et mangez, prenez et buvez.
Pour les personnes qui désirent du jus de raisin plutôt que du vin, il y en a ici, vous pouvez nous rejoindre.
Frères et sœurs, allez dans la paix de votre Seigneur. Amen.
Dieu notre Père, c'est ta gloire que nous contemplons en ton Fils Jésus-Christ. C'est ton amour que nous saisissons dans ce pain et ce vin partagés. C'est ta présence que nous célébrons dans notre communion les uns avec les autres. Loué sois-tu, Dieu béni, pour les siècles des siècles. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus le Christ, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix de votre Seigneur. Amen. Et moi, nous vous souhaitons un très beau dimanche.